Alors, il nous reste 20 minutes. Ça fait 5 minutes chacun. C'est énorme. Énorme. C'est trop même, peut-être. Alors, qui peut... Quand... Édouard, tu avais demandé la parole. Il faut que tu répondes à toutes les questions qui t'ont été adressées.
Je ne voulais que réagir à un propos qui était tenu. Donc, en réalité, le débat d'aujourd'hui est fort intéressant. Après, on a regardé sur les restructurations, quelles conséquences, comment on anticipe, formation, pas formation, politique industrielle au niveau national, européen, etc. Mais en réalité, lorsqu'on regarde l'évolution, pas uniquement de la France et de l'Europe, l'évolution même de l'économie en général, quel est le problème qui se pose à nous ? C'est le capitalisme contre la démocratie. C'est ça le vrai débat de fond. Capitalisme contre la démocratie. Pourquoi on essaie de faire baisser le recours aux experts, le droit des organisations syndicales, des représentants des travailleurs, etc. C'est parce qu'effectivement, il faut arrêter que ce corps intermédiaire arrête de nous emmerder, nous capitalistes, qui voulons, qui savons ce qui est bon pour nous. Donc arrêtez de nous emmerder. Lorsqu'on pose le débat... Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, en décembre dernier, la Commission européenne s'apprêtait à reconnaître de facto le statut d'économie de marché à la Chine. Donc la Commission allait dire « la Chine est une économie libre et non faussée ». Ah ah, je m'éclate de rire. Enfin, même eux, ça les a... Et justement, les juristes, parce que j'aime bien les juristes, mais jusqu'à un certain niveau. C'est intéressant, mais c'est le politique qui doit prendre la main. C'est le politique qui doit... C'est aussi... Non mais je suis sûr que vous êtes adorable, mais c'est pas le propos. Je disais simplement que les juristes de la Commission européenne ne voulaient pas. Mais j'imagine que vous sortez tous des mêmes écoles, non ? Non, excusez-moi.
Non, ne voulaient pas.
Non, ça, mais c'est mon côté taquin là. Ne voulaient absolument pas que le Parlement européen se saisisse de ce débat-là, parce que il nous disait à nous élus du peuple. Mais vous n'avez rien compris, vous ne connaissez rien en droit international, c'est écrit dans les traités de l'OMC. On ne peut pas faire autrement. Eh bien, j'ai dit, je m'en fous des traités de l'OMC, des accords de l'OMC. Moi, ce que je regarde, c'est quel est l'intérêt de l'Europe, des travailleurs, de notre économie, etc. Et, résultat des courses, on a gagné le débat politique. On a gagné le débat démocratique. Et là, nous sommes en train de finaliser, effectivement, les conditions dans lesquelles on pourrait dire que sur tel et tel secteur stratégique, enfin, tel et tel secteur économique, la Chine, on peut dire qu'effectivement, elle respecte nos règles. On va y compris introduire dans les prochaines semaines une négociation sur comment on modifie les instruments de défense commerciale et en sortir de la règle du droit moindre qui était une fumisterie complète, qui était adorée par tous les capitalistes du monde, parce qu'en réalité, ils payaient peanuts. Là, on va vraiment, s'il y a, concurrence déloyale, eh bien, ils paieront le vrai coût de la concurrence déloyale. Alors après, effectivement, la question de fond, et ça répond en partie, pas complètement, à ce d'Alstom, c'est que là aussi, j'entends au niveau parlementaire, pas uniquement au niveau européen, de tous bords, que ce soit le Conseil, la Commission, y compris certains parlementaires, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de construire des trains ? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de construire, de transporter des voyageurs ? Est-ce que c'est le rôle de l'État de construire des voitures, etc., des éoliennes, etc. Mais en réalité, c'est quoi le rôle de l'État ? Si on en croit certains économistes très libéraux, le rôle de l'État, ça doit être uniquement un rôle régalien. La justice, la défense, même pas l'éducation, la santé, et encore. Parce que la santé, ça... Plus la police, pardon, j'ai oublié. Donc, la vraie question, c'est effectivement si on peut dire... L'idée, c'est quand même, c'est est-ce que on fait des choix stratégiques ? Et je pense que si la crise de 2008, elle a eu au moins un effet, entre guillemets, positif, c'est qu'elle a démontré l'importance d'avoir une industrie forte sur nos territoires. Parce qu'à l'époque, tous les talibans de tous bords me disaient à moi, qui était sidérurgiste, mais l'acier s'est dépassé, camarade. Va voir ailleurs. Forme-toi informaticien. Il voulait nous installer une entreprise qui faisait des puces électroniques, vous voyez. Les puces électroniques, c'est très bien, mais vous voyez vous déplacer sur autoroute sur une puce électronique. L'acier, est-ce que c'est stratégique ou pas? Est-ce qu'on a besoin de voitures ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'éoliennes ou pas? Est-ce qu'on a besoin de trains ou pas? Regardez, l'acier, il y en a partout. La vraie question de fond, et qui n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale et surtout sociétale. Est-ce qu'on dit que ce n'est pas stratégique pour nous et les 200 millions de tonnes d'acier que l'on produit, eh ben on va laisser ça aux Chinois ou à d'autres qui émettent deux fois plus d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et on perd non seulement les emplois, mais en plus, on apporte notre pollution. Enfin, c'est tout ça le débat que j'estime. Là, on est en train d'essayer de casser, effectivement, les corps intermédiaires, la société civile, y compris le Parlement européen. Moi, si je rêve d'une institution européenne un peu plus démocratique, j'aimerais qu'on donne le pouvoir d'initiative au Parlement européen. Or, nous n'avons pas ce pouvoir d'initiative. Ça n'est un pouvoir qui n'est réservé qu'à la Commission, et après, on réagit. Et donc, la politique industrielle, pour répondre un peu en partie, malheureusement, n'est pas une compétence européenne. Donc, il faudrait que les États se mettent d'accord. Alors, c'est pour ça que j'entendais Alstom, Siemens, c'est vachement bien. Franchement, là, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'en ai rien à faire de l'identité de mon patron, moi. Moi, je suis pas un souverainiste. Non, mais voilà, je suis pas un souverainiste. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que Alstom et Siemens, c'est un mariage entre égaux? Évidemment, non. Évidemment non. Est-ce que vous avez vu l'arnaque du siècle qui est passée inaperçue, ou en tout cas on n'en a pas beaucoup parlé, pour remercier les actionnaires d'Alstom? C'est avec la vente de la partie énergie générale électrique, le trésor de guerre, on va le distribuer aux actionnaires d'Alstom, payés 100% par Alstom. Vous vous rendez compte, Siemens vient de mettre la main sur un fleuron industriel français, ça lui a coûté zéro. Elle n'est pas belle la vie? Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire, pour ceux qui disent voilà le début d'une politique industrielle, c'est faux. Parce que l'État n'en jouait aucun jeu. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, c'est que je suis presque persuadé que le fait que le gouvernement sorte d'Alstom, c'est qu'ils attendent une contrepartie de la part de l'Allemagne. Et la contrepartie de l'Allemagne, c'est peut-être l'idée que prône Emmanuel Macron, c'est l'Europe des cercles concentriques, laissez-nous faire. Des collaborations où on sorte de l'obligation d'être d'accord à 28, et ceux qui veulent avancer ensemble avancent. Mais pour ça, il faut l'accord de l'Allemagne. Et je pense que ça en fait partie. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, oui, maintenant, si on veut être logique, et ce sera le mot de la fin, sur une politique industrielle européenne, eh bien, il faudrait que ça ne s'arrête pas à Siemens-Alstom. Il faudrait que la nouvelle entité Siemens-Alstom, elle soit confortée par la Commission européenne, on va attendre ce qu'elle va dire, et que ça ne s'arrête pas là. Qui disent, eh bien, on va aller maintenant acheter Skoda en République tchèque, qui est aussi en difficulté, et Skoda cherche un investisseur, qui produit aussi des trains, des rames et des locomotives. Mais vous savez qui c'est qui est c'est la Chine qui attend de racheter Skoda. Voilà, donc si on veut vraiment dire, voilà, une vraie politique industrielle, parce que c'est important d'avoir la maîtrise de la fabrication des trains, et c'est parce que c'est pas uniquement parce que ça donne du boulot, même si c'est important, eh bien, une véritable politique industrielle, c'est que la Commission européenne, qui est, entre guillemets, la garante des traités politiques, donc nos chefs d'État doivent aussi donner mandat à la Commission de dire on va peut-être regarder, avoir une lecture un peu plus politique des traités européens et arrêter de penser un peu plus aux citoyens, aux travailleurs, à la démocratie, plutôt que sortir du sacro-saint à chaque fois on ne nous parle du « il faut ». Respecter le consommateur, respecter le consommateur, respecter le consommateur. Le consommateur, ça veut dire quoi? Il faut que le consommateur puisse trouver un bien de consommation le plus bas possible. C'est ça la politique qu'on nous impose aujourd'hui.
Et quand il veut.
Pardon?
Et quand il veut.
D'un coup de clic. Hein? D'un coup de clic. Voilà.
Merci. 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 Merci.
Bon, c'est difficile de rebondir après Édouard Martin, et surtout quand on est économiste, parce que les juristes sont suspects, mais alors
les économistes.
Hein. Ça dépend lesquels.
Okay. Ah bon, c'est comme les juristes, il y en a des bons. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, alors, je voudrais directement aborder la question principale, c'est la question de la fatalité. Alors, Frédéric a des choses à dire aussi, mais je vais faire part de ma propre réaction. Des patrons voyous, il y en a. Est-ce qu'ils sont quantitativement très importants dans le processus? J'en doute. J'ai regardé les statistiques sur les licenciements boursiers. C'est quelque chose qui n'existe pas sur le plan statistique. Les entreprises qui licencient, les actions plongent. Mais les actionnaires n'aiment pas ça. Ça fait du conflit, ça veut dire quelque chose qui ne va pas bien, il va y avoir du mouvement. Donc en fait, je ne veux pas dire que toutes les restructurations sont justifiées. Je veux dire qu'il y a en France en particulier une réaction immédiate. Un, on est contre le capitalisme. Et donc ça, c'est une saloperie. Donc ça permet de voir tout de suite qu'on a raison d'être contre. Donc, il y a une réaction immédiate. Et à mon avis, une partie... Moi aussi, je suis contre le capitalisme. Hein. Mais bon, mais je regarde à l'étranger et c'est plus calme à l'étranger.
Je disais pas, voyons, je disais...
Oui. Attends, tu vas voir. Il me semble que ce qui se passe en France, c'est comme on décide au dernier moment d'annoncer, il n'y a rien en amont. Alors, en amont, imaginez, on dit, mais écoutez, dans 6 mois, on va faire quelque chose. Ah, bah, à ce moment-là, si c'est ça, si l'entreprise dit ça, bah, les syndicats peuvent aller chercher des experts, regarder si c'est justifié, contester, dire, vous parlez de 600, manifestement, avec 300, on s'en sort très bien, etc. Donc, en fait, tout ça ne se fait pas. Alors, du coup, on confond deux choses. Oui, c'est mal, le capitalisme. Oui, c'est dur, la mondialisation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, il y a la croissance ralentie. Hein. Ça, c'est encore autre chose. On ne crée pas d'heures de travail. Alors, c'est donc ce contexte très difficile qui est là. Alors, comment redonner les marges de manœuvre? Comment desserrer les taux? C'est ça, l'enjeu. Hein. Et c'est un enjeu, effectivement, politique, qui a de multiples dimensions. Vous avez vu toutes les dimensions qu'on a parcourues, hein, la formation, la mondialisation, le droit, etc. Moi, je vais prendre la formule de Supio. Supio n'est pas tellement susceptible de dire qu'il est laxiste par rapport à ce qui se passe. Ben, il dit, oui, voilà, refonder le droit du travail. Il ne dit pas accroître la répression, il dit la déplacer, la mettre là où il faut. C'est ça l'enjeu. Alors maintenant, si je reprends quelques-unes des petites questions qui ont été posées là-dessus, oui, la qualité du travail se dégrade pour les gens qui ont retrouvé du boulot, et l'OCDE l'a mesuré. Hein, déclassement, perte de revenus, perte de qualification, etc. Donc ça, c'est très clair. Bonus-malus. Ouais, demander à des entreprises en difficulté de payer plus parce qu'elles licencient plus, on voit très bien que ça peut se faire un peu, mais quand même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est comme le bonus-malus pour la mise au chômage qui est discuté. D'ailleurs, ça existe aux États-Unis depuis très longtemps. Et c'est un dispositif qui marche dans une certaine frange et très mal pour le chômage de masse. Hein. Donc, à mon avis, ce n'est pas tellement une bonne solution. Autre chose, donc, bien sûr, la formation. Alors, on a entendu parler de la formation, on dit on est mal formé, il faudrait être mieux formé, etc. Oui, mais attention, la formation, ce n'est pas comme des épinards qu'on mange et ensuite on est plus fort. Hein. C'est-à-dire, la formation, c'est en fait un rapport social extrêmement complexe, hein, entre compétences, application de ses compétences, anticipation sur ses compétences. Et donc, en fait, ça suppose au moins autant d'accompagnement que d'efforts de formation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit très bien que tout ça, ça plafonne. Les entreprises, elles ne sont pas du tout en train d'augmenter indéfiniment leurs dépenses de formation. Elles ont plafonné ça. Peut-être aussi parce qu'elles se disent qu'elles trouvent un Roumain moins cher et finalement compétent. Hein. Elles jouent sur beaucoup de choses. En tout cas, prendre la formation en disant « c'est une vraie difficulté en France, je suis d'accord », prendre la formation en disant « c'est le levier principal », pas tout seul. Drôlement pas tout seul. Hein. Et notamment avec les territoires, etc. Donc, vous voyez, tout l'enjeu, c'est de desserrer un étau et dans lequel, finalement, les pratiques françaises ne sont pas tellement les plus recommandables. Hein. Et justement, dans d'autres pays où on voit des anticipations réelles qui sont faites, on discute un peu mieux sur toutes ces questions. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut plaider en faveur d'un freinage de la mondialisation, d'une accélération de la croissance. Eh, vous êtes sûr, c'est l'accélération de la croissance avec l'écologie et tout ça, là, faut continuer à tirer l'arigot. À mon avis, il y a des logiques de partage du travail qui doivent être mises en route, etc. Donc, je voudrais ici simplement remarquer que la question des patrons voyous, c'est quand même seulement une partie, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, c'est une petite partie de la partie émergée de l'iceberg. Frédéric ?
Oui, je voudrais simplement, je voudrais répondre à deux questions. Je pense que ça répondra à quelques autres en même temps, enfin du moins essayer d'y répondre. Je voudrais répondre à l'intervenant qui a dit « et si les changements ne sont pas nécessaires ?» Non, c'était un intervenant là-bas qui... Mais, bon. Mais non, ça c'est toi, tu es intervenu... Toi, tu es intervenu sur « faut-il interdire certaines restructurations ?» Hein, mais c'est... Je voudrais insister dans ma réponse sur le fait qu'il n'y a pas de réponse a priori à ça, et c'est ça qui permet de construire quelque chose. Pourquoi il n'y a pas de réponse a priori à ça? Parce que le bien commun, ce n'est pas une donnée immanente. Est-ce qu'il faut faire ou tel changement? Ce n'est pas dit à l'avance. Donc, ce qu'il faut construire, c'est des possibilités d'organiser des controverses outillées, productrices de résultats et décisions sur les changements à faire. C'est ça la clé d'entrée. Parce que sinon, on va tomber sur le fait que changer pour perdre, si vous permettez, je préférerais garder. Bah oui, tous, hein, tous dans la salle, tout, partout. Bon, ça c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a besoin d'éclairage, hein, et on a besoin que les intérêts qui sont en jeu soient défendus. Mais tous les intérêts ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas tous le même poids, les décisions ne sont pas... Chacun prend pas, a pas la même part dans la décision, etc. C'est ces dispositifs qu'il faut construire. Honnêtement, là-dessus, on a raté le coche il y a 40 ans. Hein. Dominique l'a dit, on avait fait un truc, l'accord national interprofessionnel de 1969 sur la sécurité de l'emploi, c'était un petit bijou, je vous invite à le relire, c'est magnifique. Bon, on ne l'a pas appliqué. Et derrière, on a dit codétermination, cogestion, ça c'est la cogestion du capitalisme, on n'en veut pas. Bilan des courses, les gens qui ont des dispositifs solides d'anticipation et gestion des restructurations, ils sont, et il y a des défauts dans ces pays-là, notamment dans le premier que je vais citer, ils sont en Allemagne, ils sont au Danemark, ils sont en Suède, ils sont en Finlande, bref, ils sont dans tous les pays où vous avez des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de 20 personnes en Suède. Pas 5 000, 20. Ça ne leur pose pas de problème. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais quand même, hein, on a raté un coche. Et puis, ça fait 40 ans qu'on court derrière. Et ça fait 40 ans qu'on court derrière les dispositifs qu'on aurait dû mettre avant en place et puis qu'on a mis après. Et comme c'est après, c'est moins efficace. Puis les gens ont fait autrement, etc. C'est quand même un peu ça le bilan des restructurations à la française. Bon. Alors, deuxième point, qui est relativement lié à ça dans mon esprit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une ampleur nouvelle des restructurations depuis 1970 ? Bon. Qu'est-ce qu'on fait des 4 millions de paysans qui ont disparu entre 1950 et 1970 ? Ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu le sens de leur vie. Pour regarder les évolutions qualitatives, lisez Henri Mandras. C'est incroyable ce qu'ils ont subi. Mais on ne les voit pas comme des restructurés. C'était des vieux paysans qui appartenaient à l'ancien monde, tout ça, le progrès passait là-dessus, quoi. Bon, si vous mettez les paysans dans la balance, en France, il n'y a pas plus de restructurés depuis 70 qu'il y en a eu entre 50 et 70. Et je remercie Marie-Laure Morin d'avoir rappelé que l'ancien L122-12, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, a été produit en 1928. Pourquoi en 1928 ? Parce qu'en 1928, il y avait des tas de transferts d'activités entre entreprises. Et que, oui, il fallait faire quelque chose, donc on a régulé. Je ne crois pas que les mutations d'aujourd'hui soient plus intenses qu'elles n'ont été à la fin du 19e siècle, dans les années 30, etc., etc. Ceci étant, on a un vrai problème. Un jour, j'ai cherché. Bon, je n'ai pas les moyens d'un vrai chercheur. Je n'ai jamais trouvé de série statistique là-dessus, donc on discute un peu dans le vide. Mais des séries statistiques sur les licenciements, les mouvements, les machins... Ça n'existe pas. Hein. Donc voilà, si quelqu'un en a, il y a un sujet de recherche là, c'est vraiment tout à fait impressionnant. Dernier point, je souscris à ce que dit Philippe Morvanou quand il dit « Depuis un bon moment, on dérégule quand même le droit du travail. » Ok. Mais il faudrait quand même qu'on se pose la question pourquoi ? Pourquoi c'est si simple ? On a construit un dispositif qu'on a utilisé comme une ligne Maginot. Et le sort des lignes Maginot, elle est connue. Alors, quand on l'a construit dans les années 80-90, on était en septembre 39. Maintenant, on est plutôt en juin 40. Ah, c'est pas la même situation, hein. On est d'accord. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à ce qu'on ait compris que...
Entre-temps, c'est
chaud. Eh ben oui, je pense que ça va être chaud. Mais écoutez, je vous donne un exemple. J'étais invité, parce qu'à l'époque, je pilotais le pôle licenciement restructuration de Sanac, j'étais invité à un petit déjeuner avec le ministre du Travail de l'époque et toute une série de gens qui représentaient des intérêts contradictoires sur la question. Et l'objet du petit déjeuner, c'était est-ce qu'on maintient quelque chose qui, à mon avis, on aurait dû maintenir, parce que c'est un principe démocratique important, la nécessité qu'il y ait un accord entre le secrétaire du CE et le président du CE sur l'ordre du jour. Bon. On était quelques-uns dans la salle. Alors, je ne joue pas sur le décorum, mais on était quelques-uns dans la salle. La discussion a été intense. Et on est sorti de la discussion où on avait réussi à mettre un peu le doute dans l'esprit du ministre de l'époque à quelques-uns. Bon. On s'est fait ramasser sur quoi ? Sur quelqu'un qui a très intelligemment utilisé un argument. L'élu, si vous vous souvenez de cette restructuration à Évry, la fermeture d'une biscuiterie, où chaque fois qu'il y avait un ordre du jour, il y avait une contestation, chaque fois qu'il y avait un CE ou un CCE, il y avait une contestation de l'ordre du jour, il y avait une obligation pour l'employeur d'aller au tribunal pour faire valider que c'était bien l'ordre du jour qu'il fallait et revenir. C'était systématique, il n'y avait aucune raison de le faire, mais c'était systématique. Bon. Qui a utilisé très intelligemment ça en disant « Vous vous rendez compte, des gens comme Danone, ils essayent de bien faire, ils sont ceci, ils sont cela. » Bon, c'est un groupe, par ailleurs, qui a des qualités. On ne peut pas continuer comme ça. Et on s'est fait balayer là-dessus. Autrement dit, on s'est fait balayer sur une utilisation du droit comme étant on défend ce qui existe et rien d'autre et on veut rester là où on est et pas autrement. Bon, voilà. Ça, c'est quelque chose, il faut qu'on en discute. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que ça, je dis il faut qu'on discute de ces modes opératoires. Dernier point, ce n'est pas vrai que rien n'a changé. On a mis en place les conseils en évolution professionnelle. On a mis en place le CPF, et maintenant inclus dans le CPA. On a mis en place les entretiens professionnels en entreprise, d'accord, qui sont des entretiens sur le devenir, y compris à l'extérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, je n'ai pas vu d'effort particulier, je vais le dire comme ça, des organisations syndicales ou des organisations patronales pour dire on va se saisir de ça, on va faire des enjeux de négociation et on va organiser les parcours avec ces instruments-là. J'ajoute, parce qu'on est en France, il y a un tuyau privé, c'est l'entretien professionnel, il est fait par l'entreprise. Il y a deux tuyaux publics, c'est le Conseil en évolution professionnelle et le CPF. Alors le CPF, en fait, c'est le salarié, mais bon, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on suit ? Les utilisations de CPF et les utilisations de et le CEP. Qu'est-ce qu'on ne suit pas ? Les entretiens professionnels. Je parle en termes d'évaluation qualitative, quantitative, etc. Et hop, on a déjà introduit la cassure parce qu'il y en a un qui est privé complètement et l'autre qui est en partie publique. Voilà, on paye ça. On paye cette absence de coordination, on paye cette absence de volonté, de savoir-faire, je dirais pas de volonté, des acteurs, dans les restructurations, pas seulement les restructurations, mais dans les restructurations aussi et avant, de se coordonner en situation. J'arrête là. Je dis simplement une dernière petite chose. On a reproduit ici un certain nombre de questions parce que aussi s'intéresser aux restructurations, c'est s'intéresser au court terme. Si on veut changer la donne, il faut repartir du long terme. Si on ne refait pas ça, on reposera invariablement les mêmes questions.
Merci Frédéric. Claire et Dominique. Du coup, je vais parler plutôt de la question qui avait été posée là par... par l'interlocuteur de la CGT sur est-ce que quand les organisations syndicales ou les salariés sont présents au conseil d'administration, etc., ont plus d'infos pour anticiper, est-ce que ça change la donne ? Alors déjà, les élus, les membres du CE peuvent être assistés au conseil d'administration sans être élus du conseil d'administration. Donc, il y en a quand même beaucoup qui assistent au conseil d'administration. Ça change pas grand-chose parce que du coup, ça devient une instance, c'est une instance un peu formelle où c'est pas les vraies choses se disent. Donc du coup... ça ne change pas grand-chose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand ils peuvent les anticiper, ça ne change aussi pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que, alors, typiquement, la presse, enfin, dire, moi, le PSO que j'avais, j'en ai suivi encore un là, mais le premier que j'ai suivi, c'était il y a 2 ans. Ça ne faisait pas un an qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème sur la presse. Enfin, je veux dire, l'impact du numérique, ça faisait des années qu'on en parlait. Enfin, c'était énorme. La diffusion baissait. Enfin, voilà, il y avait vraiment. Et les élus, ça faisait des années qu'ils réclamaient une négociation GPEC, qui disaient qu'il fallait s'en emparer, quels sont les emplois en risque, comment on voit ça. Et en fait, bah, l'employeur, évidemment, des idées, savait peut-être ce qu'il faisait. Enfin, à l'époque, c'était un imprimeur, donc c'était un gros imprimeur en Belgique, donc il n'était pas très intéressé par ça. Il ne connaissait pas vraiment finalement le monde de la presse en tant que tel, donc il ne réagissait pas. Mais il y avait de l'anticipation là-dessus, mais il n'y avait pas de prise au sérieux de cette anticipation par les élus, parce qu'en fait, il y a un vrai sujet aussi. Alors, en tout cas, pour la France, nous, moi, que je constate quand même, c'est qu'on ne prend pas au sérieux les interlocuteurs syndicaux, quand même.
Mais c'est pas la codétermination, là.
Oui, mais même sans la codétermination, c'est-à-dire qu'un interloc...
Il n'y a
aucun pouvoir, mais il n'y a aucune volonté de... À un moment, une négociation sur la GPEC, elle est tous les 3 ans, elle est obligatoire. On est complètement d'accord, mais du coup, il n'y a même pas... quand il n'y a pas de prise au sérieux, il n'y a pas de levier pour qu'il soit pris au sérieux. Voilà. Mais de fait, ça, c'est peut-être vraiment un sujet à en parler là-dessus. Alors, l'avis conforme du CE sur certains sujets, que sais-je, mais à un moment, quand il y a une négociation GPEC obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés et que cette entreprise avait 600 salariés, elle aura dû avoir lieu, cette négociation. Peut-être pas une conclusion, mais au moins la négociation, ça n'avait pas lieu depuis des années, alors que là, on voyait bien qu'il y avait un sujet. À l'inverse, pour le coup, là, sur une des boîtes d'édition de logiciels que je connais un peu, ils ont, pour le coup, les élus, en anticipant toutes les restructurations, parce que tous les 2 ans, ils ont un PSE, il y a un accord qui a été signé de valable pour 4 ans qui fixe les conditions des PSE à venir, les conditions du recours à l'expert, du budget de l'avocat, enfin tout est calé. Dès qu'il y a un PSE, ils savent ce qu'il y a, et c'est fini, c'est plié. Voilà. C'est l'extrême inverse. Alors c'est, je ne vous parle pas là-dessus de la formation, des passerelles, etc. Mais du coup, c'est le côté régime indemnitaire, congé de reclassement qui prime. Voilà, prends l'argent et tire-toi. Voilà, prends l'oseille et tire-toi. Voilà, c'est ça qui a primé. Et du coup, par contre, ils anticipent. Voilà, ils disent au moins pour 4 ans, on sait comment ça se passe. Donc du coup, forcément, les salariés, soit ils craignent, soit ils attendent. Enfin, ça crée aussi des choses au niveau de dynamique collective. Mais voilà, ils ont un accord qui est signé. Et effectivement, juste pour finir, sur, quand on regarde, j'ai fait quelques ratios là sur les... Il y a un coût du PSE qui est mis en place, hors cellule reclassement, hors cabinet qui aide au reclassement des entreprises, des salariés. Quand on prend un coût de PSE, en tout cas sur les entreprises, j'ai vu, c'est à peu près 60%, 55%, 60% sur les indemnités. 30% congé de reclassement, donc les indemnités, enfin avant de toucher les ACEDIC, les indemnités tous les mois qui tombent, et le reste à peu près 15%, 20% formation, création aide à la création d'entreprise, etc. Donc on voit un peu la répartition entre ce qui est financé dans un PSE, c'est quand même énormément les indemnités et le congé de reclassement qui suit.
Très rapidement, puisque pas beaucoup de temps, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez évoqué là, sur les innovations en dehors des aspects PSE, sur les accords de maintien dans l'emploi, en gros, hein, l'homogénéisation de l'ensemble de ces accords autour de la compétitivité et de l'emploi. Moi, je ne crois pas qu'ils auront plus de succès demain qu'hier, pour une raison assez simple, hein, c'est que les gens n'en veulent pas. Et c'est très compliqué d'aller contre la volonté des acteurs. Les gens ne veulent pas baisser leur salaire. Ils ne veulent pas avoir de perte de salaire. On en a connu une dizaine, je crois, d'AME sur la durée de vie de la loi. Moi, j'ai travaillé personnellement sur 3 d'entre eux. Et finalement, le nombre des suppressions d'emplois a été supérieur au nombre des emplois supprimés dans le projet. Il y a un cas où il a fallu rembaucher. Les gens qui sont partis ne sont pas ceux que l'employeur souhaitait voir partir. Enfin, bref, il y a tout un tas de gens qui considèrent que c'est désormais une opportunité de pouvoir quitter l'entreprise quand on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas. Ça rejoint la question du volontariat dont on a parlé. Et c'est pourquoi je voudrais dire un mot aussi sur ces nouveaux accords de volontariat qui, par contre, à mon avis, eux vont rencontrer un succès certain. Donc cette fameuse rupture conventionnelle collective. Alors il ne s'agit pas de rupture conventionnelle, hein, en fait. Hein. Il s'agit bien de mettre en œuvre des plans de départ volontaire pour motif économique. Hein. C'est le sujet, hein, bien entendu. Même si le motif économique n'est pas repéré en tant que tel par le Code du travail. Hein. Et peut-être même surtout, d'ailleurs. Là, il y a quand même une vraie évolution, une petite révolution, je dirais, hein, puisque pour la première fois, des partenaires sociaux vont pouvoir signer un accord qui permet de déroger à des règles d'ordre public, celle de la rupture de contrat de travail pour motif économique. Hein, donc c'est quand même une évolution. Elle est inscrite dans le Code du travail, hein, en tant que telle. Elle est décrite dans le Code du travail, elle est encadrée. On n'est pas sur de l'accord collectif, on n'est pas sur de la négociation. On est sur un dispositif posé par la loi qui dit, voilà, il y a l'administration qui contrôle, etc. Là, non, on est véritablement sur, on donne aux négociateurs les clés de ce qui encadre le licenciement pour motif économique est défini par la loi, autrement dit, la responsabilité de la sauvegarde de l'emploi. Hein, on dit vous devez faire en sorte qu'il y ait une information du comité d'entreprise, vous devez faire en sorte qu'il y ait des mesures d'accompagnement au reclassement, hein, mais il n'y a pas de contrôle au-delà de ça. Non.
Excusez-moi, mais je vais prendre une casquette juridique un tout petit peu technique. Sur ce que vous venez de dire, les plans de départ volontaire, il y avait une jurisprudence de la Cour de justice qui les avait validés.
Oui, bien sûr.
Dire qu'on déroge à la loi sur le licenciement économique, quand on a fait la rupture, quand on a institué la rupture conventionnelle individuelle, on dérogeait aussi à la loi sur le licenciement individuel. Pareil, si vous le comprenez, on a créé un autre mode de rupture, ce que la loi peut parfaitement faire.
Oui, bien sûr.
Sur un accord individuel, sur un accord collectif d'arbitrage, sur un accord individuel de côté. Donc, du point de vue de la technique juridique, c'est exactement le même mécanisme.
Alors, moi, je ne suis pas juriste, hein, si vous voulez.
Parce que... ce qui est vrai, mais encore que là, l'administration du travail sera informée, ce qui est vrai, c'est que depuis 1945, le contrôle de l'emploi appartient à l'État et à l'administration du travail. Bon, et c'est peut-être là que, si vous voulez introduire dans un domaine de l'aide, théoriquement du contrôle de l'emploi, introduire des ruptures, des ruptures conventionnelles, c'est peut-être de ce point de vue-là qu'il peut y avoir effectivement un saut qualitatif. Sur le plan des accords, j'aimerais que vous ayez raison sur ce que moi j'appelle les accords compétitivité-emploi. Mais attention, attention. Dans les entreprises dans lesquelles il faut un accord majoritaire pour conclure ça, s'il n'y a pas l'accord majoritaire et que l'employeur le veut quand même, il pourra faire un référendum à l'initiative de l'employeur dès lors qu'il y a une seule organisation minoritaire qui ne s'y est pas opposée. Hein? Ça, c'est écrit dans la loi. Donc, autrement dit, il y a un moyen de référendum à l'initiative de l'employeur. Et dans les entreprises où il n'y a ni conseil d'entreprise, ni dans les petites entreprises, vous allez avoir ces accords qui pourront être par référendum et qui auront cet effet-là. Et moi, c'est dans les PME que je le crains le plus. Parce que c'est par la voie du référendum.
Oui, dans les petites entreprises, oui, c'est possible, bien sûr.
Du fait de l'introduction du référendum, il y a un changement.
D'accord, mais c'est autre chose, là, du coup. C'est le fait que désormais, effectivement, c'est un autre champ.
À partir du moment où il y a une possibilité, où il n'y a plus le verrou de l'accord, j'entends ce que vous dites quand il y a le verrou de l'accord, parce que les partenaires n'en veulent pas. Mais à partir du moment où le verrou de l'accord est fragilisé, il y a une possibilité de rappel par référendum, à ce moment-là, ça change toute la problématique.
Oui, mais alors ça, c'est pas seulement sur ces accords, mais c'est sur l'ensemble des dérogations possibles aux différentes dispositions des conventions collectives, notamment. Oui, non, ça devient trop technique.
Le droit du travail proscrit les prises d'otages collectives au-delà de 17h10 le week-end, donc je passe le micro à...
Ah ben non, tu l'as déjà. Mais là, tu renonces à... Tu veux dire un mot de conclusion?
Non, parce que... Enfin, à cette heure, c'est... alors, juste un mot. Je pense qu'il y a peut-être les prémices d'un consensus vers une politique industrielle, puisque même les pays... traditionnellement très libéraux comme les États-Unis ou le Royaume-Uni commencent dans leur discours politique à évoquer, notamment le dernier discours de Theresa May, une politique industrielle. Mais je crois qu'à cette heure-ci, il est plus raisonnable. Alors, je suis à la disposition de ceux qui ont des questions individuelles, mais je ne veux pas vous prendre tous en otage. Je laisse Dominique conclure.
Écoutez, mille merci. Moi, j'ai trouvé que c'était, enfin, toutes les deux, on a trouvé que c'était très intéressant. On va vous demander vos PowerPoints, vos références, ouvrir sur le site de l'IRISO un site spécial, un point spécial pour mettre tout cela. On voudrait faire donc une assez grosse après-midi, disons, certainement le 13 ou le 14 février. On se cale sur les contraintes des uns et des autres. Mais on a de toute façon toutes vos coordonnées, donc on vous refera signe sans aucun problème. Et merci beaucoup de votre présence et à bientôt.